winds 100
points out to the west. Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh, dude.
Radio X.
Bon début de soirée, bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X. En cette veille de long congé, ce week-end, congé de Pâques, certains ont déjà débuté leur fin de semaine ce matin. Et nous, sans plus tarder, voici l'extrait qui représente et qui lance l'épisode de ce soir, en ce vendredi 18 avril.
Orange de l'Idaho est affligé par d'étranges phénomènes depuis plus d'un siècle. La rumeur court que les Navajos auraient jeté un sort sur le territoire. Le milliardaire Brandon Fugel embauche une équipe de scientifiques afin de trouver des réponses. Mais leur enquête est assombrie par des événements inquiétants. Arriveront-ils à percer le mystère? Le secret du Ranch Skinwalker, de le 28 septembre, sur Historia.
Allô, Christian Page.
Bonsoir, Camille, en ce vendredi 5.
J'espère que t'as passé une belle semaine, mon cher.
Oui, absolument. Oui,
ça va faire du bien, un long week-end, et je suis contente de le commencer avec toi et de commencer notre thématique des questions du public. J'aime qu'on va un petit peu partout, et si on a du temps ce soir, parce que il nous en manque un petit peu, il y a une question sur l'existence de Jésus, donc on est en pleine thématique de Pâques. Mais juste avant, on a entendu la bande-annonce d'une série d'Historia, Le secret du Skinwalker Ranch, que je ne connais pas.
D'ailleurs, c'est assez étonnant, hein, parce que dans la bande-annonce, on nous dit, il y a un ranch dans l'Idaho. Le ranch est dans l'Utah.
Oui, c'est vrai.
Au départ, dans la bande-annonce, on vient de nous mener en bateau. On n'est pas dans le bon état. Donc, effectivement, le Skinwalker Ranch, ça se trouve dans l'Utah. Et c'est un assez grand ranch. Hein. Il fait 512 acres de terrain. Il est à la limite là, d'une réserve autochtone des Premières Nations. Et l'idée du Skinwalker, hein, pourquoi on l'appelle le Skinwalker Ranch, il faut savoir que dans les légendes des Premières Nations du centre des États-Unis, il y a cette légende du Skinwalker. Le Skinwalker, c'est une espèce de créature. On a un peu le semblable ici au Québec, chez les Premières Nations. C'est la légende un peu du Wendigo.
Okay. Hein,
le Wendigo, en fait, le concept du Wendigo, c'est, si on regarde un peu la philosophie, c'est un esprit qui s'en prend généralement aux solitaires, aux gens qui s'éloignent, hein, qui vont vivre un peu en nomade. Et en fait, on comprend que derrière, en fait, c'est un peu comme une espèce pas d'hypothèse, c'est pas ça le mot que je cherche, c'est plutôt une allégorie. Voilà le mot que je cherche. C'est une allégorie pour dire on est mieux de rester ensemble que de s'éloigner de la communauté. Parce que si on s'éloigne de la communauté, hein, c'est le fameux principe de l'union fait la force. Hein, donc si on s'éloigne de la communauté, on devient plus faible. Et si on devient plus faible, on peut devenir la proie d'un Wendigo. Le Wendigo peut nous prendre. Donc c'est un peu l'idée. Dans les groupes qu'on retrouve au centre des États-Unis, cette légende-là, et le Wendigo, ben évidemment, c'est un esprit qui peut se manifester sous toutes sortes de formes. Hein. Bon, même si on aime bien, nous, les Occidentaux, on aime bien donner des formes, et on l'illustre souvent comme une espèce de loup-garou avec une tête de chevreuil. Là. Bon, les Autochtones ne le voient pas exactement comme ça.
Ah,
on raconte le Wendigo, c'est une créature un peu qui prend n'importe quelle forme, elle est invisible, puis une légende dit qu'elle se roule parfois dans la sèvre des arbres, et se roule dans les feuilles pour se couvrir de feuilles, pour être moins visible. Bon, il y a toutes sortes de légendes autour de ça. Dans le cas du Skinwalker, c'est un peu la même chose. C'est une espèce d'esprit qui peut prendre toutes les formes et s'en prendre, évidemment, aux voyageurs solitaires ou aux nomades. Et donc, c'est un peu, on retrouve un peu les mêmes éléments. Et donc, le Skinwalker, comme le ranch se trouve tout près de cette communauté autochtone, on s'est inspiré des légendes locales et on l'a appelé Skinwalker. il faut pas voir dans le nom de Skinwalker, même si on aime bien le dire, là, ça veut pas dire que parce qu'il y a une légende de Skinwalker chez les peuples des Premières Nations de cette région-là, des États-Unis, du centre des États-Unis, que ça veut dire qu'il y a des Skinwalkers réels qui arpentent le ranch en question. Hein. Donc, c'est un assez grand ranch, et en fait, son intérêt dans l'univers du paranormal apparaît dans les années 1990, et principalement, là, en partir de 1996, il y a un type qui s'appelle Robert Bigelow. Et Robert Bigelow, c'est un milliardaire. Il a fait fortune, notamment dans le domaine de l'hôtellerie. Et aujourd'hui, il dirige une compagnie qui s'appelle Bigelow Aerospace. Et son idée, c'est éventuellement de faire, de travailler dans le tourisme spatial.
Okay.
Il espère développer des sortes d'hôtels qu'on pourrait placer en orbite, donc des modules qu'on pourrait assembler un peu comme la station orbitale. Et ces stations, en fait, ces modules assemblés deviendraient un hôtel spatial et permettraient le tourisme spatial.
On n'est pas encore là, on l'a vu cette semaine, Blue Origin avec Katy Perry, ils ont fait 11 minutes là, de voyage.
C'est ce qu'on appelle dans le domaine de l'aéronautique un saut de puce. Hein. Les deux premiers vols américains dans l'espace, Alan Shepard et Gus Grissom, on est en 1962 ou 63. Non, 62. Et ces deux premiers vols, donc, des deux premiers astronautes dans l'espace, parce que quand on parle des Américains dans l'espace, on pense immédiatement les premiers noms qui nous viennent, en dehors de Neil Armstrong, qui est le premier à marcher sur la Lune. Mais quand on dit qui est le premier Américain dans l'espace, on a souvent tendance à dire John Glenn. Mais en réalité, John Glenn est le premier Américain à avoir orbité autour de la Terre. Donc, il a fait trois orbites autour de la Terre. Mais avant lui, deux Américains y avaient été dans exactement un vol comme celui de Katy Perry, un saut de puce. On les a mis dans une capsule Mercury, on les a envoyés très, très haut, dans une espèce de courbe balistique, puis ils sont retombés sur Terre. Un vol d'une quinzaine de minutes. Mais on avait donc deux Américains qui avaient été dans l'espace. Et là, ensuite, on a eu le premier Américain qui a été mis en orbite, qui a été John Glenn. Donc, Katy Perry a fait le même exploit qu'avait fait il y a 60 ans, Alan Shepard et Gus Grissom.
Faut
quand même le souligner. Hein. Puis à l'époque, Alan Shepard avait eu droit aux honneurs présidentiels. Hein. Il avait été reçu à la Maison Blanche.
Mais on va le dire président. Comme ça, Christian, tout était à construire à ce moment-là. Hein. C'était un essai, là.
Ah oui, absolument. Donc, aujourd'hui, bon, on n'en est plus là, mais on comprend qu'à l'époque, ça avait quand même été extraordinaire. Donc, on en revient à notre Skinwalker.
Oui.
Et ce Robert Bigelow, il a une autre facette, Robert Bigelow. En dehors d'être un passionné de l'espace et millionnaire, il est passionné aussi par les placements en bourse. Robert Bigelow, c'est également un type qui s'intéresse beaucoup aux ovnis, aux surnaturel puis ce genre de trucs. Ça, c'est une grande passion qu'il a. Et donc, lorsqu'il entend parler, à partir de 1995, il y a des rumeurs qui tournent autour de ce fameux Skinwalker Ranch, que l'on dit être un lieu propice aux apparitions d'OVNI, aux phénomènes étranges. Robert Bigelow se dit, ben voilà une bonne occasion pour moi de me plonger dans cet univers. Et il va acheter le ranch en 1996. Il va en demeurer le propriétaire pendant 20 ans, hein, jusqu'en 2016. On fera pas une émission sur le Skinwalker Ranch, mais il y a plusieurs affaires qu'il faudrait à un moment donné là remettre un peu dans le contexte.
Décortiquer.
Hein. Parce qu'à cette époque-là, on sait que durant ces 20 années, on sait que le département de la défense aux États-Unis a investi de l'argent pour étudier les phénomènes à Skinwalker. Mais en réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Tu sais, les gens, les amateurs de surnaturel aiment bien présenter ça de cette manière-là pour essayer de justifier que, waouh, il y a des phénomènes paranormaux à preuve. Le département de la défense avait investi de l'argent pour financer des recherches sur place. En réalité, c'est plus complexe que ça. Hein. Dans le fond, le département de la défense ont investi de l'argent dans ils savaient pas quoi. C'est ça qui s'est passé. Dans le département de la défense, ils se sont fait. Bon, il y a des gens qui ont fait pression auprès du département de la défense pour les amener à investir des sous dans ce qu'on pourrait appeler des technologies presque fantastique. Est-ce qu'il est possible de voyager à travers le temps? Est-ce qu'on peut développer des moteurs à développement électromagnétique? Est-ce que l'invisibilité est possible?
Ah, c'est donc cool, pareil. Qu'on investisse du fonds public là-dedans.
Non, absolument. Peut-on voyager plus vite que la lumière? T'sais, et quand je dis ça, ce sont des questionnements scientifiques qui sont tout à fait légitimes.
Oui.
Hein? Je veux dire, on s'entend bien là-dessus. Là. Bon, c'est pas là le problème. Et bon, le département de la Défense, eux aussi, comme toi, comme moi, comme plein d'autres scientifiques, ont dit ben voilà, une excellente idée.
Hein? Ça nous emballe.
On sait pas si on peut voyager dans le temps, mais ça serait intéressant de savoir si c'est possible et qu'est-ce qu'il faudrait pour voyager dans le temps, etc. Donc, on va investir des sous et ces sous-là vont et l'un des premier à obtenir de ces argents-là, de ces sommes d'argent pour mener ces investigations, c'est justement Robert Bigelow. Hein. Il est sur la liste des gens qui, bon, parce qu'il y a des contacts au Pentagone. En fait, il y a des contacts auprès de gens importants au Congrès américain. Je pense par exemple au sénateur Harry Reid. Et Harry Reid est l'un de ceux qui va faire pression auprès du Département de la Défense pour faire financer ces recherches. Et ces recherches-là, ben comme elles il n'y a pas de balise, en fait. Le département de la Défense dit pas, vous devez mener les recherches de telle ou telle manière. Le département de la Défense fait un peu un chèque en blanc en disant, oui, c'est des sujets qui nous intéressent et oui, on va investir des sous. Et c'est ainsi que ces sous vont se retrouver dans le portefeuille de Robert Bigelow et qu'il va utiliser une partie de ces sommes d'argent pour enquêter sur les soi-disant manifestations de Skinwalker Ranch parce que croit-il, lui, que ces manifestations pourraient apporter des informations qualitatives qui nous renseigneraient sur certaines approches proposées dans les études que le département de la Défense a décidé de financer. Donc tu comprends, c'est un peu tordu de dire le gouvernement a financé les recherches à Skinwalker. C'est pas tout à fait vrai. Le gouvernement a financé des recherches alternatives sur des sciences un peu étranges et par un concours de circonstances, ces sommes d'argent se sont retrouvés investis dans le Skinwalker Ranch.
Okay.
C'est pas tout à fait la même chose. Et ce qui est malheureux, par contre, c'est que à un moment donné, le département de la Défense se sont aperçus que une partie des sommes d'argent servait à enquêter sur des histoires de loups-garous, de mutilations de bétail et des trucs comme ça. Et là, ça les a refroidis un peu et éventuellement, on a tiré la plug. Et en tirant la plug, malheureusement, il n'y a pas eu de suivi, c'est-à-dire que Robert Bigelow n'a jamais publié le moindre compte-rendu des recherches qui ont été menées là. Il n'y a eu aucun papier, aucune étude scientifique qui a été présentée sur ce qui se produisait au Skinwalker Ranch. Dans les sommes d'argent investies, oui, certaines personnes proches de Robert Bigelow ont produit des documents sur justement ces espèces de technologies presque fantastiques, là, sur la est-ce qu'on peut aller plus vite que la lumière, est-ce que l'invisibilité est possible, etc. Donc ils ont produit des papiers, des documents qui aujourd'hui d'ailleurs sont accessibles là, sur le site du département de la Défense. On peut les télécharger, ces documents-là, et voir un peu quelles ont été les propositions qui ont été faites. Mais en ce qui concerne en ce qui concerne le Skinwalker Ranch, on n'a rien du tout. Il n'y a rien qui a été publié. Et puis en 2016, Robert Bigelow vend le Skinwalker Ranch. Il le vend à un certain Brendan Fugel, qui est un milliardaire lui aussi. Et là, Brendan Fugel, lui, a décidé aussi de tirer profit de du ranch en question. Et là, donc, depuis 2020, il y a cette fameuse série, Le secret de Skinwalker Ranch, où là, on suit semaine après semaine des gens qui visiblement sont témoins de phénomènes étranges et qui essaient d'expliquer les phénomènes qui s'y produisent. Et là, j'en arrive à la question d'un des auditeurs qui me demande ce que je pense de l'émission de Skinwalker Ranch. Bon, cela étant dit, là, maintenant, j'ai expliqué un peu le contexte. Lorsque l'émission est sortie en 2020, je me rappelle avoir fait, après 2 ou 3 épisodes, j'avais fait une émission avec Marceau à l'époque, où on avait décanté un peu l'histoire de Skinwalker Ranch. Et j'étais plutôt enthousiaste. Et j'étais également plutôt ouvert d'esprit. Hein. Je trouvais ça intéressant de voir ce Brendan Fugel, contrairement à Robert Bigelow, qui tout est secret, puis je peux pas rien dire, puis je parle pas, puis je dis rien, puis bon, bref, etc., et qui laisse finalement un grand vide aux spéculations. Brandon Fugal, lui, était plus acceptait dès les premiers épisodes de Skinwalker Ranch. Il met les balises, il dit « Voici ce que je veux faire. » On invite donc des caméras qui suivent l'équipe sur place. On va essayer de documenter les manifestations qui se produisent. Donc, il y a une espèce d'ouverture et je sens à la fois dans le discours une volonté bien réelle d'essayer de comprendre les phénomènes, si phénomènes il y a, sur le Skinwalker Ranch. Aujourd'hui, pratiquement 5 ans plus tard, crois-moi, j'ai déchanté et dans le pas à peu près.
Ouais, de ce que je comprends, c'est que c'est toujours actif puis il y a des nouveaux épisodes à chaque dimanche, c'est ça?
C'est de la foutaise.
Et puis après 5 ans, on n'a pas trouvé le secret.
Non, c'est du n'importe quoi. Écoute, à un moment donné, il y a 2 ans, 2-3 ans à peu près, à un moment donné, j'ai réuni... Moi, parce que le problème dans ces émissions-là, c'est que nous sommes tous des ignorants. Hein? Puis je dis pas péjorative. On est tous des ignorants. Moi, là, Christian Page, là, j'ai une formation en communication, puis j'ai des cours crédités en histoire. C'est tout ce que j'ai. Je suis pas un physicien, moi, là. Je suis pas un astrophysicien. Alors, quand j'écoute une émission sur l'astronomie ou l'astrophysique, je fais confiance aux gens qui me racontent ces trucs-là en me disant, ils vont essayer de me donner une information qualitative.
Ces gens-là ont le CV pour me l'expliquer, c'est ça.
Tu as tout à fait raison. Bon, si moi, je suis pas un spécialiste des dromadaires, mais si j'écoute une émission sur les dromadaires, j'espère bien que le naturaliste qui va me parler des dromadaires, s'il commence à me dire « les dromadaires, c'est l'ancêtre des chevaux », ben je vais le croire. Tu sais, tu comprends, je veux dire, moi je suis pas un spécialiste du dromadaire, je fais confiance à lui, puis s'il me dit ça, à moins que je décide que le sujet des dromadaires m'intéresse à un point tel que je me plonge dans la littérature sur les dromadaires, mais en théorie, à partir du moment où le type me raconte ça, ben je vais prendre cette information là, puis je vais l'accepter parce que je fais confiance au messager. Et dans le cas de Skinwalker Ranch, ben là, on voit ces gens-là, et principalement le chef scientifique, c'est un type qui s'appelle Travis Taylor. C'est un véritable, j'ai vérifié, c'est un véritable ingénieur en aérospatial, c'est un véritable physicien. Et comme je te dis, au départ, tout ça semblait bien articulé, puis je me suis dit, ça va être intéressant. Mais à un moment donné, de semaine en semaine, il trouve tout le temps des trucs bizarroïdes, puis il n'y a jamais rien qui avance. Puis... Et là, à un moment donné, j'ai vu qu'ils ont vu un ovni, ils l'ont pointé du doigt, ils l'ont suivi, et on a appris par la suite que c'est un hélicoptère qui inspectait les lignes à haute tension. Et ils sont jamais revenus dans l'émission pour nous le dire.
Ah.
Et là, ça a commencé à mettre ça m'a mis la puce à l'oreille. Hein, ils ont vu, et là, ils parlaient de trucs bizarroïdes, et tout d'un coup, ils voient une lumière au loin, puis là, ils disent, ah, c'est un hélicoptère. À un moment donné, ils croient que c'est un ovni, après ça, c'est un hélicoptère, et là, ils nous disent que c'est un hélicoptère qui est là pour espionner ce qui se passe sur Skinwalker. Tu sais, le genre complot, là, les méchants hommes en noir qui nous surveillent. Et puis, finalement, on apprend que c'est un hélicoptère qui surveillait les lignes à haute tension. Ils font ça, les compagnies locales, font une fois toutes les 6 mois, ils remontent les circuits hydroélectriques pour s'assurer, le système électrique, les lignes à haute tension, pour s'assurer que les piliers, parce qu'on est dans une région très désertique, là, on veut s'assurer que les piliers sont en bon état, et parfois les hélicoptères vont se poser au sol, vérifier le pilier, repartir et aller arrêter plus loin, soit dans une autre centrale ou vers un autre pilier. Et ça, quand j'ai découvert ça, et dans les émissions qui ont suivi, ils nous représentaient leur histoire d'hélicoptère comme s'ils étaient surveillés, alors qu'on savait pertinemment que c'était un hélicoptère qui inspectait les lignes à haute tension. Là, j'ai commencé à me poser des sérieuses questions. Et éventuellement, quand je dis on nous sommes tous des ignorants, ben évidemment ces gens-là nous abrutissent semaine après semaine avec toutes sortes de oui, nous recevons ici une énergie électromagnétique de 8 millions de mégavolts et ça c'est impossible. Moi je ne sais pas si c'est vrai. Puis je ne sais pas si c'est impossible. Donc ce que j'ai fait à un moment donné, j'ai réuni chez moi 3 physiciens. Un de l'Université de Montréal et 2 de l'Université de McGill.
OK.
Et on a regardé 4 épisodes. Ces gens-là se sont bidonnés là, mais du début à la fin.
Vous avez fait un drinking game.
Ouais. Et à chaque fois qu'il y avait comme un phénomène étrange, on mettait sur pause. Et là, ils me disaient quel était le meilleur moyen pour trouver une solution. Okay. Ils disent, bon, moi, là, comme physicien, là, je suis, d'abord, la moitié de ce qu'ils disent est faux, hein. Tu dis qu'à toi, ça, c'est impossible. C'est pas vrai. On trouve des anomalies magnétiques de ce type-là partout dans l'environnement. Donc, on nous exagère un peu la patente, hein.
Okay.
On aime ça, nous faire courir.
C'est du spectacle, là.
Oh, on aime faire du spectacle. Et là, avec lui, il lance des fusées. Puis ils font toutes sortes d'affaires. Puis là, ils regardent, eux, ils riaient en disant, ça, là, tu sais, à partir du moment où tu fais le postulat, hein, il y a un phénomène étrange qui se produit. Voici ce phénomène. Perturbation électromagnétique sur un secteur de 10 mètres par 10 mètres. Bon, là, les capteurs magnétiques se mettent soudainement à s'affoler. Donc, on va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe là. Là, eux évoquaient, avant qu'on poursuive l'émission, là, ils me disaient, bon, voici les 10 façons pour arriver à une solution. Là, ils évoquaient 10 solutions possibles. Et là, d'un coup, ils disaient, et la façon de ne pas trouver de solution. Hein, la façon là, que tu veux faire de la science ridicule, puis t'es sûr que tu trouveras pas une solution en faisant ça, ben c'est exactement la solution que eux employaient dans l'émission.
Ah, ok.
Donc ils essaient de c'est de la fausse science. Ils essaient de nous faire croire qu'ils font de la science pour résoudre l'énigme, mais les techniques qu'ils utilisent ou les méthodes qu'ils utilisent invariablement vont conduire à un cul-de-sac. Alors évidemment de semaine en semaine, on entretient le mystère. Oh, Colin, on n'a pas trouvé qu'est-ce qui se produisait ici. Donc, la semaine prochaine, on va utiliser un ballon, on va utiliser une fusée, on va utiliser ça, on va creuser un trou. Non, c'est toujours les hypothèses qu'ils développent et les solutions qu'ils mettent en marche, c'est toujours les solutions où tu es certain qu'on n'obtiendra pas de réponse. Et ça te permet de maintenir semaine après semaine l'intérêt du public à regarder une émission comme celle-là.
C'est sur un terrain privé, mais Christian, est-ce qu'il y a aussi d'autres revenus, mettons, touristiques qui émergent
de
ça?
Non, pas du tout, okay. Pas du tout. Donc, c'est financé, bon, Brandon Frugal, c'est un milliardaire, les gens qui sont là, il y a l'émission de télé. En fait, c'est une espèce de... Le comparer aujourd'hui, là, j'aurais pas fait ça après les 3 premiers épisodes. Comme je l'ai mentionné, j'étais plutôt enthousiaste en voyant les 3 ou 4 premiers épisodes. C'est après que l'affaire s'est déconstruite. Je dirais que le secret de Skinwalker Ranch, c'est exactement comme le creuser à Oak Island, là, la malédiction d'Oak Island.
Ouais.
Tu sais, au début, tu te dis, bon, il y a une véritable légende à Oak Island. Hein? Oui, c'est vrai, en 1795, 3 jeunes de la région ont trouvé ce qui semblait... En fait, je dis, c'est vrai. C'est une légende, on s'entend bien, là, parce que les premiers récits... Hein, les gens ne savent pas ça. Il y a plein d'affaires qu'on nous dit pas dans ces émissions-là. Cette histoire-là des jeunes en 1795 qui trouvent un puits, puis que, bon, on se met à creuser. Cette histoire-là, elle apparaît qu'au 19e siècle. Il y a aucun... Pendant 60 ans, il n'y a aucun écrit de ça qui existe. Donc, il faut attendre pratiquement 60 ans avant que des premiers journaux locaux en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, commencent à nous dire « Ouais, il y a des chercheurs de trésors qui creusent à Oak Island parce que il y a 60 ans, on aurait trouvé une dépression avec un trouble. » Ça vient d'où, ça? On le sait pas. C'est du bouche à oreille. Il y a pas de récit contemporain qui est fait immédiatement.
Okay.
Et là, ben, évidemment, l'émission de Oak Island, ils creusent. Puis on oublie, on n'insiste pas assez pour nous dire que c'est une île qui a été habitée à un moment donné. Il y avait des gens qui avaient des lots de terrain. Il y avait des gens qui faisaient de la culture sur ça. Il y avait des gens qui avaient des vaches, qui avaient des veaux, qui avaient des fermes. Donc, quand tu creuses puis tu trouves un clou, ouais, c'est pas forcément un clou qui a été amené par Christophe Colomb, là, c'est pas ça, là. Tu sais, puis là, on trouve une pièce de monnaie ancienne. Ben oui, ça se peut qu'il y ait eu aussi des numismates dans l'île, là. Tu sais, là, les gens... Moi, là, je veux dire, si tu viens creuser chez moi, là, puis tu trouves une pièce de monnaie de 1920, ça veut pas dire que j'existais en 1920. Ça veut dire que j'avais dans mes poches une pièce de 1920. Il y a comme...
C'est
du grand n'importe quoi, là. Tu sais, j'ai chez moi un vase romain du 1er siècle. Ben si ma maison brûle puis des archéologues viennent creuser dans ma maison.
Ah ben il y avait des Romains.
Ben voilà.
Il y avait des Romains ici.
On a trouvé un vase romain du 1er siècle. Il y avait donc des Romains qui vivaient, qui sont venus en Amérique, au quelque part, au 1er siècle, à Saint-Jean-sur-Richelieu, où ils ont visiblement perdu un vase.
Ah, ben, ça change le narratif, hein, de dire on n'est pas le nouveau continent.
Voilà. Et c'est des trucs comme ça. Et au départ, quand j'ai vu les premiers épisodes de Oak Island, ben là aussi, comme je connaissais la légende, je trouvais ça intéressant. J'avais en librairie, en bibliothèque, plusieurs livres sur Oak Island. Puis je trouvais que c'était une énigme intéressante. Moi-même, quand j'avais fait mes dossiers mystères au tout début des années 2000, donc bien avant l'émission La Malédiction d'Oak Island, j'avais fait une émission consacrée à Oak Island. J'avais été sur place, j'avais rencontré des gens qui étaient passionnés par cette histoire de trésor. Il y a une énigme, une légende qui est intéressante. Ben là, aujourd'hui, le secret de la malédiction d'Oak Island, là, fait 15 ans qu'il creuse, puis il trouve des bouts de bois, puis des clous, puis il trouve jamais rien, puis il y a tout le temps de raisons X ou Y pour nous dire qu'ils n'ont pas trouvé le trésor. Et surtout, quand on se met à nous mêler on travestit l'histoire. Hein. Je vais dire quelque chose, ça va peut-être choquer les gens, là. Surtout les amateurs d'Oak Island. Là. Écoute bien ça, là. Les Templiers ne sont jamais venus en Amérique. Ça, c'est clair. Et à chaque fois que je les entends nous sortir leur truc des Templiers, parce que les Templiers, c'est une espèce d'ordre chevaleresque qui existait au 12e siècle, qui défendait, c'était durant les croisades, puis ils défendaient la route vers Jérusalem. Puis à une époque, ces gens-là, ils ont également développé des systèmes d'économie, hein, c'était presque une banque. Et comme ils étaient autorisés par le pape, non seulement ils se sont rendus riches, mais c'était un état dans l'État. Et comme ils ne répondaient qu'au pape, ils sont devenus un peu les ennemis de l'État, parce que on ne pouvait pas les contrôler, ni en Angleterre, ni en France. Ils sont devenus des renégats. Je vais le dire, là, ils étaient des bandits. Et quand finalement on a décidé de mettre le pape les a laissés tomber, et là, évidemment, à partir du moment où ils n'étaient plus protégés par le pape, crois-moi que dans les pays où ils étaient, en Angleterre, en Écosse ou encore en France, ils ont été pourchassés, parce que c'était des bandits. Et le temps faisant ce qu'il est, on fait de bandits des héros. Hein? Bonnie and Clyde, aujourd'hui, c'est des héros. Mais c'est un peu la même chose. Les cowboys, hein? Jesse James, c'est des scélérats. Mais c'est pas grave, on en a fait des héros. Et les Templiers sont devenus un peu des héros avec les siècles. On les a ressuscités et on leur attribue une grandeur d'âme qu'ils n'avaient pas du tout. C'était des bandits. Et là, puis ces gens-là, l'ordre a été dissous officiellement en 1312, les derniers Templiers ont été exécutés en 1314. Donc, à partir du 14e siècle, les Templiers n'existent plus et leurs biens, qui avaient été notamment en France, leurs biens qui avaient été confisqués par Philippe le Bel, ont été refondus et redistribués dans un autre ordre chevaleresque, qui est l'ordre des Hospitaliers. Donc, les Templiers, là, à tous les fois qu'ils nous trouvent, c'est beau, ça fait rêver, c'est bon pour les livres de science-fiction puis les romans, mais quand ils creusent à Oak Island puis nous trouvent un clou puis nous disent ça c'est un clou des Templiers, excuse-moi là, mais en France là, les professeurs d'université qui connaissent bien l'histoire des Templiers doivent se bidonner et pas à peu près. Okay. On passe pour des imbéciles. Moi, te le dire ben franchement là, on passe pour des imbéciles quand on sort un truc comme ça. Mais bon, ça fait rêver et ça revient un peu à ce que je te disais. Pourquoi on y croit? Parce qu'on est ignorant. Hein? Je reproche pas aux gens de ne pas connaître l'histoire des Templiers. Ce que je reproche, c'est aux messagers. Ouais, c'est ça. C'est aux messagers de tromper les gens. Et c'est un peu la même chose à Skinwalker Ranch. Quand je vois un type comme Travis Taylor qui fait des expériences scientifiques et qui nous sort, il s'habille du manteau de la science, nous sort des mots longs comme le bras, où il faut quasiment un dictionnaire aux côtés de toi pour comprendre de quoi il parle. On y fait confiance. Et malheureusement, il trompe les téléspectateurs parce qu'il sait qu'une grande partie des téléspectateurs, comme moi, on est ignorant de ce qu'il raconte. Et on aura tendance, à moins d'aller fouiller dans des livres de science, on aura tendance à accepter le message et on se fait duper. Donc, si on me pose la question, je vais répondre. Je sais que j'ai fait un grand détour, mais je vais répondre honnêtement à cet auditeur. Pour moi, le Skinwalker Ranch, c'est une exploitation de l'ignorance des téléspectateurs, rien de plus. Pour faire du fric, pour maintenir une émission en onde, une émission qui fonctionne bien, puis voilà, puis c'est comme ça que ça passe.
Et qu'il n'y a jamais eu d'études non plus sur les centaines de signalements, puis de
non. On nous raconte ça, mais
il y a rien de scientifique.
C'est, ouais, ce qu'il faut retenir du Skinwalker Ranch, il y a eu des livres qui ont été écrits sur le sujet, mais dans le cas du Skinwalker Ranch, il n'y a jamais eu une seule publication scientifique.
Okay.
Aucune. Jamais. Et pourtant, c'est pas Brandon Fugel, mais Robert Bigelow était entouré de plein de scientifiques qui travaillaient pour lui, des gens, comme je l'ai mentionné, qui recevaient des sous, notamment du département de la Défense, pour enquêter sur des sciences, disons, marginales. Ces gens-là ont publié des papiers sur ces sujets-là. Mais pour Skinwalker Ranch, zéro. Aucune publication scientifique jamais présentée à propos d'un ou l'autre des phénomènes qui sont rapportés à Skinwalker.
Quand même un élément qui fait sourciller.
Absolument.
On laisse ça en point de suspension. Christian, me permets-tu de faire une pause et au retour,
absolument,
on tombe dans des questions à thématique plus religieuse.
Oui, j'en ai choisi deux pour ce vendredi saint.
Excellent. On est de retour dans quelques minutes ici même à Radio X.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour à l'émission, Christian, on va s'attaquer au linceul de Turin pour la prochaine question des auditeurs. Que pensez-vous des nouvelles datations de ce fameux linceul?
Oui. En fait, juste un petit aparté. Tantôt, on parlait des fameux sauts de puce, hein, comme celui qu'a fait Katy Perry.
Oui.
Je t'allais vérifier. Donc, les deux sauts de puce dont je te parlais, Alan Shepard et Gus Grissom, sont produits les 5 et le 21 juillet 1961. Premier vol orbital avec John Glenn le 20 février 1962. Donc, Gus Grissom et Alan Shepard ont fait exactement la même chose qu'a fait la semaine dernière Katy Perry. Bon. Cela étant, maintenant, on parle du linceul de Turin. Bon, des gens m'ont posé la question. J'essaie le moins possible d'aborder des questions religieuses parce que, pour l'avoir fait dans le passé, c'est souvent sujet de controverse et je respecte les gens qui ont des convictions religieuses. Puis pour moi, je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Mais, donc là, on me pose la question, puis ça tombait bien, c'est la Semaine Sainte. Et à 2-3 reprises, on m'est revenu avec ça. Qu'est-ce que vous pensez du linceul de Turin, vrai ou faux?
Je tiens aussi à ajouter que la prochaine question, c'est est-ce que Jésus a existé? Fait que les gens sensibles peut-être s'abstenaient pour les 20 prochaines minutes.
Là.
Donc, on va être peut-être des convictions religieuses un petit peu quand même.
Ouais, voilà. Donc, parce que c'est Vendredi Saint, je dis, bon, OK, je vais aborder ces deux questions-là. Donc, le linceul de Turin, hein, c'est une grande pièce de lin qui fait à peu près 1,10 m de large par 4,40 m de long. Il est exposé, bon, il est conservé à l'église Saint-Jean-Baptiste de Turin, en Italie, et il est exhibé devant les fidèles, peut-être de manière très occasionnelle, à peu près, grosso modo, une fois toutes les 10, 15 ou 20 ans. Là. C'est lors d'événements très spéciaux qu'on exhibe le linceul. Et on sait qu'il y a eu plusieurs études sur le linceul. On y voit, en fait, l'image dorsale et ventrale, une image un peu fantôme. Hein. Moi, pour l'avoir vu, là, de mes yeux vus, c'est très troublant quand même. J'ai été très impressionné par cette relique-là. On voit un peu l'image fantôme d'un homme, une image ventrale et dorsale, d'un homme qui présente les marques de la crucifixion. Et on se pose la question, est-ce que c'est l'authentique linceul qui aurait entouré le Christ au moment de sa mise au tombeau? Ben, il faut savoir qu'il y a des études qui ont été menées à plusieurs reprises, là, à la fin du 20e siècle sur le linceul, principalement entre, je dirais, grosso modo, le 1950 et 1990, il y a eu plusieurs importants projets scientifiques sur le linceul de Turin. Et puis, en 1988, on avait procédé à une datation au carbone 14. Il faut savoir que le linceul, hein, il nous est connu depuis 1350. Donc, c'est à ce moment-là qu'il fait son apparition dans l'histoire. Ça voudrait donc dire que pendant, grosso modo, là, 13 siècles, il a été gardé secrètement et personne ne l'a vu ou personne ne l'a mentionné dans aucune chronique. Il y a bien sûr des chroniques très anciennes qui parlent de linges sur lesquels on verrait le visage du Christ. Mais aucun ne fait une référence à un linceul entier. Et dans le cas du linceul, difficile de faire passer un mouchoir qui a le visage de Jésus dessus, hein, comme le voile de Véronique, qui fait partie d'une espèce de tradition religieuse, à un long linceul de 4,40 m où on voit le corps au complet. Donc, une description d'un linceul, on n'en a pas. Et la première fois où le linceul apparaît tel qu'il est, c'est en 1350, dans une petite commune au sud-est de Paris, qui s'appelle Liré. Et apparemment, il est une donation à ce moment-là moment-là d'une veuve, la veuve d'un chevalier croisé, qui est un noble de l'endroit, qui s'appelait Geoffroy de Charny.
Et je reviens à ce que tu as dit, le voile de Véronique, c'est que le visage, hein, de,
ouais,
de
c'est,
Jésus.
Oui, c'est ça. Donc, on a, et il y a un autre voile aussi qu'on appelle le Mandilion d'Édesse, où on voyait que le visage. Et là, je comprends que les défenseurs du linceul disent, ouais, mais peut-être que le linge était plié, puis on voyait que le visage de Jésus. Bon, tu croire que pendant 13 siècles, personne n'ait pensé de le déplier puis pour découvrir que c'est un linceul au complet, ça m'apparaît très improbable.
Ouais.
Mais néanmoins, c'est possible que des sources l'aient mentionné puis que ces sources-là ne soient pas parvenues. Laissons là une chance au coureur. Mais le linceul, tel qu'il existe, tel qu'il est reconnu maintenant, il apparaît dans l'histoire, dans les chroniques en 1350. Et puis, il y a eu, en 1988, il y a eu une datation carbone 14. Et cette datation carbone 14 a dit, ben voilà, le linceul date d'une période, le lin, hein, date d'une période entre 1260 et 1390. Donc, une fourchette dans laquelle, justement, le linceul apparaît dans l'histoire. Hein. La fourchette inclut 1350, et 1350, c'est la date à laquelle il apparaît. Alors, évidemment, comme c'est une époque qui remonte au Moyen-Âge, il est beaucoup trop jeune pour avoir été le tissu qui a entouré le Christ. Donc, on venait un peu de régler le problème. Mais évidemment, cette datation carbone 14 a été remise en question. Je tiens à préciser ici qu'elle a été remise en question aussi par ceux qui l'ont fait. Hein, pas uniquement okay. Les détracteurs, ceux qui ont participé à la datation carbone 14 en 1988, eux-mêmes reconnaissent aujourd'hui qu'il est possible que certaines méthodes de stérilisation utilisées pour nettoyer le tissu étaient inadéquates. Mais attention, le fait qu'ils remettent en question la datation veut pas dire qu'ils se sont trompés de 13 siècles. Hein. C'est tu vois, le saut qu'on fait rapidement, tu sais, les gens qui veulent défendre le suaire à tout prix nous disent « Oh, mais même les scientifiques de l'époque disent qui ont fait la datation carbone 14 disent que cette datation vaut rien. C'est pas ça qu'ils disent.
Parce qu'on veut croire, hein? On veut
voilà,
croire le narratif.
Ils disent pas que ça vaut rien. Ils disent qu'il est possible que le suaire soit légèrement plus ancien. Donc, il ne daterait peut-être pas nécessairement, bon, la date annoncée, c'est 1260, 1380. On veut bien croire qu'on pourrait reculer jusqu'au 7e ou 8e siècle. On a pu faire une erreur de 2 ou 3 siècles en amont. Mais pas 1300 ans, là, quand même, faut être prudent, là. Donc, il faut tempérer quand on essaie de discréditer l'analyse au carbone 14. Cela étant dit, il y a une nouvelle analyse au carbone 14, ou une nouvelle analyse, pas une analyse, mais une datation qui a été faite. Cette fois, on n'a pas utilisé le carbone 14, et ça, c'est une datation toute récente, où on a utilisé une autre technique qui s'appelle le rayon X. Et la technique de datation au rayon X semble dire que le linceul, finalement, pourrait dater du 1er siècle. Donc, ce qui le remet en selle pour dire, ben, c'est peut-être l'authentique linceul du Christ. Et là aussi, il faut faire, et là, ben, je réponds à la question, est-ce qu'il faut y croire ou non? Ben, je pense qu'il faut être prudent. Hein. Il faut savoir que les 4 personnes qui ont été impliquées dans cette datation au rayon X, ce sont des membres de l'Institut de cristallographie et du Conseil national de recherche en Italie. Ce sont des gens dont le discours est plutôt pro-linceul de Turin. Hein. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, ils se sont exprimés et eux semblent persuadés que le linceul est authentique. Et ils ont fait cette datation en utilisant le rayon X. C'est une datation qui est beaucoup plus controversée que ne l'est la datation carbone 14.
Encore en règle générale, on y va au carbone 14.
Voilà. Quand tu parles aux scientifiques, aux archéologues, pour eux, la méthode la plus sûre pour une datation d'un objet végétal, comme le linceul, ou un objet animal, comme des restes humains, par exemple, ça demeure encore la datation au carbone 14. La datation au rayon X n'est pas exclue, mais c'est beaucoup plus controversée que ne l'est la datation carbone 14. Donc, la porte reste ouverte. Et faut faire attention si on entend les gens dire, si vous entendez des gens dire « Ah, la datation carbone 14, ça vaut rien », c'est pas tout à fait vrai. C'est pas ça que les scientifiques qui ont été impliqués à l'époque, c'est pas ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est qu'ils ont pu faire une erreur de 2 ou 3 siècles en amont, mais pas de 1300 ans quand même. Et il faut savoir également que c'est aussi l'idée d'une publication scientifique. La datation au carbone 14, elle a été menée en 1988 et a fait l'objet d'une publication dans des périodiques scientifiques avec des comités de lecture. La datation au fameux rayon X qui a été faite en 2022, cette datation, elle a été publiée dans une publication académique qui s'appelle Héritage, mais qui n'est pas une publication avec un comité de lecture comme on doit s'y attendre pour une publication scientifique.
Okay.
Donc, il faut être très prudent avec ça. Donc, c'est possible, mais sur le plan de la science, ça reste très controversé. controversé cette datation au rayon X. Donc, je me prononcerai pas. C'est un sujet qui est très, très, disons, très clivant, cette histoire de linceul de Turin. Moi, pour l'avoir vu, je reconnais que j'étais très, très impressionné par la relique, mais je reste prudent avant de conclure que c'est l'authentique linceul du Christ. Il y a des éléments qui jouent en sa faveur. Pense par exemple aux marques dans les poignets ou tout ça. On pourrait faire une émission au complet pour parler de ça. Et on, également, le personnage sur le linceul apparaît comme une espèce d'image en 3D. C'est très convaincant. Mais en même temps, il y a d'autres éléments qui jouent en sa défaveur. Notamment, l'homme du linceul ne ressemble pas à un juif arabe du Moyen-Orient du 1er siècle. Et l'homme du linceul nous apparaît davantage comme l'image de l'art, l'image du cinéma que l'on se fait de Jésus. Alors que les recherches archéologiques montrent que les gens qui vivaient au Moyen-Orient à l'époque du Christ avaient un visage très différent de l'homme qui apparaît sur qu'on pourrait qualifier de l'homme du linceul. Donc, il y a des éléments qui jouent en sa faveur, des éléments en sa défaveur, mais l'analyse au carbone 14 versus l'analyse au rayon X plus récente, ben, je pense qu'il faut, avant de discréditer entièrement l'analyse au carbone 14 de 1988, il faudrait attendre que de nouvelles analyses, même si on utilise d'autres techniques, que ce soit le rayon X ou autre, qu'elles soient validées par d'autres groupes scientifiques que l'unique analyse qu'on a fait en 2022, qui là, qu'on a brandi au EFA comme étant une analyse qui faisait remonter le linceul au 1er siècle.
Est-ce qu'il y a déjà des équipes scientifiques qui ont levé la main pour dire on va contre-vérifier encore parce qu'il y a un écart, c'est quasiment une marge d'erreur de 1300 ans. Là.
Oui, et oui, il y a des scientifiques qui sont prêts à le faire. C'est l'Église qui ne veut pas.
Ah.
Hein, le linceul de Turin. Puis je comprends, parce que c'est une question de foi. C'est pas la science et la foi, c'est
ça
deux
va pas ensemble.
Ça va pas ensemble. Et l'Église, moi je le sais pour avoir fait une série sur les reliques, quand je parle toujours de l'idée, j'avais toujours cette approche un peu scientifique. Oui, est-ce qu'il y a eu une étude scientifique sur le voile d'Oviedo? Est-ce qu'il y a eu une étude scientifique sur le linceul? Est-ce qu'il y a eu une étude scientifique sur la couronne d'épines? Immédiatement, on sent qu'il y a une résistance parce que l'Église en soi nous dit on ne veut pas que la foi soit appuyée par une relique. Hein. Les gens qui ont la foi, un point c'est tout. On ne veut pas que cette foi-là repose sur est-ce que la couronne d'épines est authentique, est-ce que le linceul de Turin est authentique, est-ce que le voile d'Oviedo est authentique. Ce sont des reliques qu'on regarde, et si ça permet d'ajouter à la foi, tant mieux, mais on ne veut pas que la foi soit une question de science. Et évidemment, ça peut nous paraître un peu étrange pour les gens qui sont comme moi, par exemple, qui sont athées. On se dit, ben là, il me semble que si on prouverait que le linceul est authentique, ça serait fantastique, ça ajouterait à la foi. Mais c'est justement ce que l'Église ne veut pas. Elle ne veut pas que la foi soit une question qui soit appuyée par la science. La science est une chose, la foi est une autre chose, et les deux arrivent difficilement à faire front commun.
Et poussons le bouchon plus loin, parce que s'il y a linceul, ça veut dire que le Christ a existé, oui ou non?
Voilà, donc ça c'est la grande question, et elle revient souvent, parce que dès que j'aborde, c'est un sujet qui me passionne, et à chaque fois que j'aborde ce sujet-là dans les médias, comme je l'ai fait il y a quelques semaines à TVA,
oui.
Quelqu'un me dit, ouais, est-ce que Jésus a existé? Et ça, c'est un grand débat, hein. Et on ne le tranchera pas ce soir. Surtout pas dans les quelques minutes qui nous restent.
Oui.
Mais il faut quand même se dire que allons-y de façon générale. Il y aura toujours des voix discordantes. Mais de façon générale. Je te dirais que 90% de la communauté des historiens, des archéologues s'entendent pour dire qu'il y a certainement eu un Jésus historique. Un personnage qui, au 1er siècle, a marqué sa communauté, soit par sa parole, par ses actions. Maintenant, à savoir, ce personnage-là, est-il le Jésus des évangiles, hein? La science n'a pas à se prononcer sur ça. La science dit, voilà, on a des éléments archéologiques qui sont évoqués, notamment dans les évangiles. Hein. Par exemple, on pense au miracle de l'aveugle. Hein. Jésus guérit un aveugle, il dit, bon, va te laver au bassin de Siloé. Et là, le type va là, il se lave les yeux, puis il retrouve la vue. Ben, il faut savoir que le bassin de Siloé, c'est un bassin qui était juste à l'extérieur des murs de Jérusalem. Et jusqu'en 2004, on on ne connaissait pas son existence. La seule fois où ce bassin-là était évoqué, c'était dans les évangiles. Et en 2004, des archéologues ont mis à jour le fameux bassin de Siloé. Ce qui montre bien que les évangiles ont une trame historique et archéologique solide. Maintenant, le personnage de Jésus lui-même, ben, les historiens se disent, ce personnage-là a probablement existé, il a influencé son époque. Maintenant, est-ce qu'il était comme l'était le Jésus que nous décrit les évangiles? Ben là, il faut savoir que les évangiles, ce sont ce qu'on appelle des textes catéchisés.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils sont pas écrits dans le but de te raconter une histoire archéologique ou historique, mais de te raconter les fondements de la foi chrétienne. Donc, on s'assure d'insister ou d'embellir le récit de manière à faire, à donner des ancrages à la foi chrétienne.
Et la morale.
Voilà. Donc, les historiens n'ont pas à se prononcer là-dessus. La foi, si tu veux croire, toi, que le Jésus de l'histoire, c'est celui des évangiles, ça te regarde, toi, c'est une question de foi. Ce que les historiens s'accordent à dire, même s'il y a des voix discordantes, hein, parce qu'il y a quand même des... J'insiste là-dessus. Il y a des historiens qui disent non, il n'y a jamais eu de Jésus historique. Mais il faut savoir que ces gens-là qui tiennent ce discours-là sont excessivement minoritaires dans la communauté scientifique. Ils font vraiment bande à part. De façon générale, on se dit, oui, il y a sûrement eu un personnage. Il y a d'ailleurs quelques références laïques, hein, donc des références qui ne sont pas religieuses. Je pense Flavius Joseph, Pline le Jeune, qui était un homme politique romain, Tacite, qui est un sénateur romain, ou Suétone, qui était un haut fonctionnaire romain, qui, dans leurs écrits, ont évoqué Jésus ou le mouvement chrétien, le mouvement du christianisme naissant, en disant, ouais, ces gens-là, les chrétiens, des gens un peu étranges, ils sont des gens qui se réfèrent à leur messie ou à leur leader qui a été crucifié, qui est mort. Donc, on fait référence à lui. Donc, on a, par la bande, on ne remet jamais en question l'idée de ce Jésus historique. Bon, mais maintenant, faisait-il des miracles? Était-il le Fils de Dieu? Ça, malheureusement, ça sort du cadre de la science. Donc, est-ce qu'il y a eu un Jésus historique? Ben, la position de la science et des archéologues et des historiens est sans aucun doute. Maintenant, la différence entre l'homme Jésus de Nazareth et le Jésus de Nazareth décrit par les évangiles, ben là, il y a un monde entre les deux, et ce monde-là, malheureusement, il bascule dans l'univers de la foi, du religieux, et là, il est là à la vigilance de la science.
Christian, je te souhaite un excellent week-end. Est-ce que tu vas te rattraper justement Jésus de Nazareth pour Pâques ou...
Je l'ai vu à quelques reprises, Jésus de Nazareth. Il y a Bénure, que j'aime bien, ou les 10 commandements. Ça, je trouve ça extraordinaire aussi, comme film d'époque. Mais c'est toujours un peu, chaque année, c'est toujours un peu plaisant de retrouver ces productions qui ont bercé un peu mon enfance, hein, quand j'étais tout petit. Combien de fois on a vu Bénure, Jésus de Nazareth, ou les 10 commandements. Et les revoir, ça me fait toujours un peu sourire, ça.
C'est des classiques. Je te remercie beaucoup pour l'épisode de ce soir. Les auditeurs ne seront pas en reste pour lundi. C'est congé, mais on aura un nouvel épisode de Suspect X pour eux dès 22h. Et sinon, on se retrouve vendredi prochain pour un autre Radio X-Files. Christian, merci encore.
Absolument, ça me fait plaisir. Alors, bon week-end de Pâques à tous.
À toi aussi.